Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Bien que nous ne pouvons nier l'état du monde dans lequel nous vivons, il est, pour certains, difficile d'admettre que l'humanité recueille les fruits amers de sa rébellion envers les lois éternelles établies par le Dieu Tout-Puissant. Notre monde est malade et nous en sommes tous affectés. Certains pensent que Dieu est impuissant, qu'il est loin de sa création, que ses lois ne sont plus valables parce qu'elles ne sont plus praticables. Elles sont révolues. Si Dieu existe, pensez-vous qu'il ait pris la peine de créer la vie pour s'en désintéresser? Pensez-vous qu'il soit capricieux? Pensez-vous que la responsabilité de l'état du monde retombe sur Dieu? La conscience de bien des gens s'est flétrie. Et ce que l'apôtre Paul a écrit a gardé toute sa valeur pour notre époque. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si le Christ devait revenir aujourd'hui, la plupart de ceux qui prétendent être chrétiens seraient étonnés de se retrouver parmi ceux qui ont réclamé sa condamnation. C'est ce qu'une génération similaire à la nôtre a fait il y a près de 2000 ans. Cependant, en écoutant l'enseignement des apôtres, des milliers d'entre eux se rendirent compte qu'ils avaient tort, car ils s'étaient écartés de la vérité. Ils en arrivèrent à comprendre que les autorités religieuses de leur époque n'enseignaient pas la vérité. Leur génération avait condamné et réclamé la mise à mort du Messie promis. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cette harangue fut durement ressentie, mais plusieurs milliers de personnes eurent l'honnêteté de reconnaître leur responsabilité. Elles reconnurent qu'elles avaient péché, qu'elles étaient donc coupables devant Dieu, et elles admirent qu'elles avaient besoin de l'aide de Dieu et de son pardon. » C'est aussi ce dont a besoin notre génération. Comment l'homme peut-il être réconcilié avec Dieu et recevoir son aide afin de bien comprendre sa volonté et avoir ensuite la force spirituelle nécessaire pour mettre en pratique ce que Dieu demande? La réponse à ces questions nous est donnée par l'apôtre Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Cette promesse s'applique également à notre époque. Cependant, le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent à Dieu et cessent de pécher et de vivre dans la transgression de la loi. Aucun être humain ne peut, par sa seule force, s'accrocher de lui-même à Dieu et mettre en pratique sa voie. Le Saint-Esprit est indispensable pour comprendre, croître et vaincre spirituellement. L'apôtre Paul a écrit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Comme l'apôtre Pierre le confirme, tout comme le font les autres livres du Nouveau Testament, nous devons avant tout soumettre notre volonté à Dieu, ensuite être immergés, ensevelis dans les eaux du baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Le pécheur repenti sort de la tombe liquide pour marcher en nouveauté de vie et pour vivre comme le Christ a vécu. Le Saint-Esprit est promis à celui qui décide de vivre conformément aux lois et aux commandements. Le Saint-Esprit, qui est la pensée de Dieu, guide et aide le véritable chrétien à suivre l'exemple du Christ et à lui obéir. Paul écrit, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Les gens ont leur opinion sur l'amour que doit avoir chaque chrétien. Beaucoup sont persuadés qu'il s'agit d'un sentiment envers la personne du Christ, ou encore qu'il s'agit tout simplement d'une attitude béate que l'on est censé ressentir après avoir donné son cœur au Seigneur. Qu'est-ce qu'en pense Dieu ? Il nous explique ce qu'est le véritable amour. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Garder les commandements de Dieu, c'est les observer tels qu'ils ont été donnés, tels que le Christ et les apôtres les ont observés, sans y apporter la moindre modification, la moindre altération. La meilleure définition du chrétien nous est donnée par l'apôtre Jean. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La Bible, en français courant, traduit ce passage comme suit. Si nous obéissons aux commandements de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes unis à Dieu. Celui qui déclare être uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Combien de personnes parmi celles qui s'imaginent être chrétiennes observent les commandements tels qu'ils figurent dans la Bible? Combien sanctifient le jour du repos que le Christ a sanctifié? Combien observent les fêtes annuelles qui furent observées par Jésus et les apôtres et permettant ainsi au Christ de vivre sa vie en eux? Pensez-vous que le Christ pourrait vivre en quelqu'un qui transgresse d'une manière constante ses commandements? N'a-t-il pas déclaré « Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Se soumettre inconditionnellement à Dieu et au Christ, notre Maître et Sauveur, est la clé de la véritable repentance. Si vous voulez devenir un chrétien, alors examinez votre vie. Croyez-vous vraiment en Dieu, en sa parole ? Voulez-vous soumettre votre volonté à la volonté de Dieu qui est révélée dans ses Écritures inspirées? Êtes-vous disposé à laisser Dieu former, modeler votre caractère pour qu'il devienne semblable au sien? Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez obtenir la vie éternelle. Êtes-vous décidé à ne plus vous entêter pour continuer à faire votre volonté? Êtes-vous enfin décidé à dire à Dieu « Que ta volonté soit faite, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si vous en êtes arrivé à ce stade, alors vous pouvez être baptisé, immergé totalement dans l'eau, et alors seulement votre baptême sera valable et vous pourrez recevoir le Saint-Esprit de Dieu par imposition des mains, mais par l'imposition des mains d'un ministre qui enseigne l'observance des commandements divins sans rien y changer, sans les modifier, sans les altérer. Le baptême ne peut avoir de valeur qu'après une repentance totale. L'apôtre Pierre a recommandé « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Mais s'il y a une génération décadente, perverse et malade, c'est surtout la nôtre. Nous retournons à ce qui se pratiquait dans les villes de Sodome et Gomorre et dans la Rome païenne. Lisez le 19e chapitre du livre de la Genèse. Cela en vaut la peine. Ces pratiques contre nature s'admettent de plus en plus aujourd'hui et notre société finit par les trouver normales et naturelles. Celui qui se repent sincèrement et profondément de ses transgressions souhaite changer, adopter un nouveau mode de vie. Voilà la conversion. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré au peuple « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Se convertir, c'est changer son ancienne façon de vivre. C'est vivre en observant les lois, les commandements. C'est donc cesser de vivre dans la transgression de la loi. C'est vivre en conformité avec la lettre de la loi, mais aussi avec l'esprit de la loi. C'est se tourner vers Dieu de tout son cœur, en vivant de toute parole qui sort de sa bouche. Ensuite, celui qui s'est repenti et qui change son mode de vie peut être baptisé, il peut entrer dans la tombe liquide qu'est l'eau du baptême. L'apôtre Paul a écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Comprenez-vous ce que Paul écrit? Le baptême représente la mort et l'inhumation. Celle-ci est suivie par une résurrection à une vie nouvelle. Le Christ est passé par là et nous devons tous suivre son exemple. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, ce qui symbolise la mise en terre de l'homme pécheur avec son ancien style de vie, son ancienne vie de péché. Dès ce moment, pour autant que le candidat au baptême soit sincère, le vieil homme pécheur meurt symboliquement et il sort de la tombe liquide afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, afin que nous vivions, que nous avancions en obéissant à Dieu. Le baptême a une signification merveilleuse. Il symbolise la mise à mort de l'homme pécheur, la mise en terre d'une vie passée dans le péché, dans la transgression de la loi, pour devenir dès lors un nouveau personnage. Paul nous l'explique. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » J'ouvre ici une parenthèse. Plusieurs versions parlent de la foi au Fils de Dieu, mais il s'agit de la foi du Fils de Dieu, tout comme il s'agit de l'amour de Dieu. Il s'agit de la foi ou de la fidélité que le chrétien reçoit lors de l'imposition des mains, avec toutes les autres qualités du fruit de l'Esprit qui toutes émanent de Dieu. Paul est devenu un autre homme après sa repentance, sa conversion et son baptême. Il devint un véritable chrétien, le Christ vivant sa vie en lui par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le baptême représente la purification, la disparition des péchés et le pardon complet des fautes passées commises. Le prophète Ésaïe a écrit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Le baptême représente un nettoyage. L'homme est lavé de ses transgressions passées et peut dès lors recevoir le Saint-Esprit, cette pensée de Dieu qui permet de mieux comprendre la volonté de Dieu, cette puissance de Dieu qui donne la force de commencer une nouvelle vie d'obéissance. C'est alors, et ce n'est qu'alors que l'on peut commencer à croître, à vaincre, pour pouvoir naître un jour dans la famille divine. Jésus-Christ a été crucifié et il est mort pour les péchés de tous ceux qui acceptent de se repentir et de se convertir. Voilà pourquoi, au moment du baptême, le ministre de Dieu demande « Vous êtes-vous repenti de vos péchés? Avez-vous accepté le Christ comme votre sauveur personnel ?» Ceci doit marquer officiellement que le baptisé reconnaît ses péchés, ses transgressions de la loi divine, ainsi que son désir d'être pardonné, son besoin du sacrifice du Fils de Dieu. Ce faisant, il démontre sa volonté de suivre l'exemple du Christ en obéissant aux lois et aux commandements. Tout ministre qui continue à vous enseigner le rejet des lois divines, à vous demander d'observer un jour de repos que Dieu n'a pas fixé, vous pousse vers le péché et il ne peut vous transmettre l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.